Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Se lever avec révérence et acclamer bien fort le Seigneur. Béni sois-tu, Père de grâce. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. En t'asseyant, dis à quelqu'un, honore la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Merci, Saint-Esprit. Conduis encore ces moments. Conduis ta parole et glorifie Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que tu prends ta Bible dans le livre de Matthieu, d'abord de Genèse, prenons nos Bibles. Le Seigneur va nous conduire dans la parole. Non. Aujourd'hui, je voudrais en fait partager avec vous la suite de notre message que nous avons introduit la semaine dernière sur le mystère des rêves. Dis avec moi le mystère des rêves. Le mystère des rêves. Nous sommes toujours dans notre série intitulée « Combattre pour libérer ton potentiel ». Sur quoi avons-nous décidé de nous focaliser maintenant? Eh bien, nous avons décidé de nous focaliser sur l'oppression et les combats que l'ennemi mène pour nous empêcher de briller, comme c'est le cas, comme c'est notre destinée. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 14, juste nous faire ce petit rappel où il est écrit: l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié ou encore hostilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans la version Bible Semeur, il dit: entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Alléluia. Voilà, la semaine dernière, j'ai fait un focus sur la descendance diable et la descendance de Christ que nous sommes, la nouvelle création, l'Église. Je nous ai expliqué avec la parole de Dieu, l'accomplissement de cette prophétie par Jésus-Christ à la croix. David avait cerné dans l'esprit l'accomplissement de cette prophétie lorsqu'il a tué Goliath. David était le seul à avoir identifié Goliath comme un descendant direct de la race du diable. Alléluia. La descendance du diable a été écrasé selon la parole que Dieu avait dite en Genèse à la croix, lorsque Jésus-Christ a été crucifié sur le lieu du crâne, c'est-à-dire le lieu où avait été enterré le crâne de Goliath, le Néphilim. Dis avec moi les Néphilim. Maintenant, cette prophétie, elle a été accomplie. Toutefois, ça n'empêche pas que l'ennemi est encore présent sur terre. Et sa descendance, les Néphilim, c'est-à-dire l'esprit des gens qui ont été détruits et éradiqués lors du jugement divin que Dieu avait fait sur la terre avant Genèse et au temps de Noé, car deux jugements avaient été faits. C'est pour cela que quand nous lisons le livre de Genèse au chapitre 1, on se rend compte tout simplement que ce n'est pas à ce moment-là que la terre a été créée. La plupart des chrétiens ne sont pas éclairés sur la création de la terre. Parce que tout simplement, pour comprendre la création de la terre, il faut être dans la révélation. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, Dieu crée la terre. Et verset 2, on voit Dieu en train de, comment dire, de remettre de l'ordre suite à un désordre qui a été fait sur la terre. C'est pour cela que quand on lit les paroles de Dieu lorsqu'il crée la terre, il ne dit pas que la terre soit ce genre de choses. Il dit simplement que la terre apparaisse. Regarde, je vais te montrer. Prends ta Bible, Genèse chapitre 1. On va lire à partir du verset 6. Allez. À partir du verset 6, il est écrit: Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, car il n'y avait que de l'eau sur la terre. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Dis avec moi, paraisse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sec est en dessous. Et cela fut ainsi, Dieu appela le sec terre et appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Donc, suite au premier jugement qu'il eut sur la terre, eh bien, les eaux avaient recouvert la terre. Pourquoi Dieu avait envoyé ce jugement? Et en fait, on va dire un peu que cet enseignement est une suite directe du mystère de Tyr. Parce qu'en fait, en gros, quand j'étais en train d'étudier la parole, je me suis rendu compte qu'en fait, on est toujours dans le mystère de Tyr. Parce que Tyr, c'est l'ennemi, c'est Satan. Tyr, c'est Satan. Et là, nous sommes juste dans une suite logique. Pourquoi? Parce qu'on s'est juste focalisé la semaine dernière sur qui est Satan et quelle est sa descendance. Si on veut comprendre la parole de Dieu, si on veut comprendre qui est Jésus, il faut comprendre qui est Satan. Satan a eu une grande haine envers Jésus pour la simple et bonne raison que Jésus-Christ est venu faire le travail que lui, il était censé faire. Alléluia. Je vais parler avant Genèse. Tu sais, cette révélation de la parole, ça fait un moment que je l'ai déjà. Mais pourquoi je ne l'enseignais pas? Pour la simple bonne raison que tu ne peux pas enseigner ça si les gens ne sont pas prêts à recevoir ça. Parce que si tu enseignes quelque chose qui n'est pas prêt, les gens vont dire que tu es en train de raconter une hérésie. Même le corps de Christ, dans la francophonie, n'est pas au fait de ce type de révélation. Alléluia. Et Satan a bien écouté cette prophétie. Et dès que cette prophétie a été prononcée, Satan s'est mis au travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, il savait que cette prophétie allait s'accomplir lorsque Jésus-Christ allait venir sur la terre. Satan a décidé de peupler la terre suite à sa rébellion. Quand nous lisons en fait Genèse, nous voyons un Satan qui est déjà rebelle. Il s'était déjà rebellé depuis longtemps. Dites-moi Lucifer. Lucifer n'est pas un ange. Dites-moi Lucifer n'est pas un ange. Car la part des chrétiens croient que Lucifer est un ange. Je rentrerai en profondeur sur cette révélation encore du mystère de Tyr lors de la conférence mandat. Mais Lucifer n'est pas un ange. Lucifer est un chérubin protecteur. Dis avec moi un chérubin protecteur. Quand tu étudies les réalités spirituelles au regard de la parole de Dieu et des écrits historiques, on se rend compte en fait que le ciel est organisé par niveau ou encore par hiérarchie en termes d'autorité et de pouvoir. Il y a Dieu qui est tout au-dessus et puis il y a différentes organisations célestes, pas angéliques, célestes. Et au ciel, les personnes qui gouvernent au ciel, pas sur la terre, au ciel, ce sont les anges, ce sont plutôt les autorités célestes. Et parmi ces autorités célestes, il y a les anges. Dis avec moi les anges. Le Saint-Esprit est en train de m'expliquer que très peu d'anges se sont rebellés et ont suivi Satan. Car voici encore une autre chose que je corrige. C'est que il n'y a pas, pratiquement pas d'anges qui se sont rebellés. Mais c'est qui s'est rebellé avec Satan? Parce que selon l'histoire, on dit que Satan a emmené un tiers des anges. Satan n'a pas emmené un tiers des anges. Satan a emmené d'autres créatures célestes. Dis avec moi les créatures célestes. J'ai pas envie d'entrer trop dedans parce que c'est pas le centre même de mon message. Mais je suis en train d'introduire le message que nous allons avoir aujourd'hui. Tu as Dieu et les personnes qui sont la plus haute hiérarchie céleste au ciel, c'est-à-dire les créatures les plus proches de Dieu, qui voient Dieu comme ça et qui sont les plus proches de lui, ce sont les séraphins. Dis avec moi les séraphins. Les séraphins sont des créatures que la Bible nous présente avec six ailes. Ésaïe chapitre 6. La Bible ne dit pas les anges, la Bible dit les séraphins. Ce sont des créatures, leur nature, c'est qu'ils sont des séraphins, ils ne sont pas anges. D'accord? C'est des créatures extrêmement puissantes. Leur rôle, c'est d'être auprès du trône de Dieu. Et ils ont un rôle bien spécifique. Je, par la grâce de Dieu, un jour, on aura un enseignement sur les anges, mais c'est pas, on ne le verra pas aujourd'hui. Après, juste en dessous de cette hiérarchie-là, on a une autre catégorie de créatures célestes qui sont les chérubins protecteurs. Dis avec moi les chérubins protecteurs. Les chérubins protecteurs, ils ont une autre mission. Et si tu veux comprendre qui sont les chérubins protecteurs et à quoi ils ressemblent, tu prends le livre de Ézéchiel. Et dans le livre d'Ézéchiel, tu vois une description détaillée des chérubins. Les chérubins sont présentés avec trois ou quatre visages en même temps. Un visage d'aigle, un visage de lion, etc. Avec des pieds comme ci, des ailes comme ça. Ézéchiel dit que quand leurs ailes battaient, c'était comme le bruit de grandes eaux, etc., etc. Et pourquoi on les appelle protecteurs? Parce que eux, leur mission, c'est de protéger la gloire de Dieu. Et Satan faisait partie de cette catégorie de créatures célestes. En dessous des chérubins protecteurs, tu as une autre catégorie de créatures célestes qu'on appelle les trônes. Dis avec moi les trônes. Les trônes, c'est une autre catégorie que la Bible révèle très très peu. Il n'en parle pratiquement pas. En fait, ce sont des. Si tu vas dans la religion juive et que tu commences à lire les écrits historiques qui sont en possession des juifs, toutes ces créatures célestes sont présentées là-dedans. Alléluia. Les trônes. Après, en dessous des trônes, tu as les dominations. Les dominations qui sont d'autres créatures. C'est ce dont parle Paul dans Éphésiens chapitre 6. Après les dominations, tu as les principautés qui sont d'autres créatures. En dessous des principautés, tu as les vertus qui sont d'autres créatures. En dessous des vertus, tu as d'autres créatures qu'on appelle les archanges. Là, ça te parle un peu plus parce que la Bible parle des archanges. Et en dessous des archanges, tu as les anges. Et au ciel, dis avec moi au ciel. Au ciel, les anges n'ont pas d'ailes. C'est une erreur grave que la religion a faite en présentant les anges avec des ailes. Je te mets au défi. Va dans toute la parole de Dieu, dans la Bible, tu ne trouveras jamais un ange avec des ailes. Jamais. Les anges sont spécialistes des apparitions et des disparitions. Et chaque fois que les anges apparaissent, ils apparaissent toujours en forme d'homme. Parce que c'est à ça qu'ils ressemblent. Là où je te parle, régulièrement le dimanche, vous étiez là assis, mais vous ne savez pas que peut-être même à côté de vous, il y avait un ange. Parce que quand un ange apparaît, il apparaît toujours de la manière la plus normale. Vous ne pouvez pas savoir que c'est un ange. Parce qu'il ressemble exactement à un être humain. Et au ciel, les anges seront à notre service pendant notre séjour que nous passerons au ciel, quand l'église sera enlevée. Vous me suivez? Donc, au ciel, les anges sont des gens qui s'occupent, ce sont des messagers, ils ont différentes tâches, d'accord? Mais ce ne sont pas des autorités célestes. Les autorités célestes au ciel, ce sont les chérubins, les séraphins, ce sont ces gens, ce sont ces créatures-là. En fait, c'est avec tout ce monde-là que Satan est parti. Enfin, avec beaucoup de ces créatures-là que Satan est parti. C'est pour ça que la Bible les présente comme des anges déchus. Et ces créatures-là, dans Genèse chapitre 6, on les appelle les fils de Dieu. Alléluia. J'ai tenu à faire cette correction parce que je sais qu'il y en a qui ont été troublés la semaine dernière quand j'ai dit certaines choses. Et lorsque Satan descend, lorsque Satan est précipité sur terre, il emmène une partie de ces personnes-là. Mais pourquoi est-ce qu'il a été précipité? Satan a été précipité pour la simple bonne raison que il avait pour rôle d'aller sur terre et de refléter la gloire de Dieu et de s'occuper d'un certain nombre de choses auprès des créatures qui vivaient sur terre. Il y avait sur terre des gens qui vivaient sur terre. Il y avait même des villes. Vous n'êtes pas au courant qu'il y a même des histoires des historiens qui ont même découvert des villes sous les eaux. Vous connaissez ces choses-là? Des archéologues qui ont découvert beaucoup de choses et des villes qui datent de millions et de millions d'années qu'on a retrouvées sous les eaux. C'est sur sa base, ces découvertes-là que les scientifiques disent qu'il y a beaucoup, comment dire, que la Terre existe depuis des millions d'années. Ils ont découvert des ossements de créatures, des villes qui ont été englouties sous les eaux, etc. C'était suite au premier jugement de Genèse 1. Et Dieu recommence. Pourquoi Dieu détruit? Parce que tout simplement, Satan avait fait commerce. C'est ce que Ésaïe aussi nous dit. Satan faisait commerce avec ces gens et avait réussi à rebeller la terre derrière lui. Dieu juge. Dieu recommence la terre avec Adam. Avec Adam, et Satan fait chuter encore Adam. Et Satan est Jésus parce que tout simplement Jésus a réussi à accomplir ce que Satan n'a pas fait. Jésus-Christ n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Ça encore, c'est un mystère parce que dire que Dieu n'avait pas prévu, c'est compliqué parce que Dieu, il sait toutes choses. D'accord? Jésus-Christ était le plan B. Et quand Satan est jugé par Dieu suite à cette prophétie, Satan se dépêche de peupler la terre. Égard à l'alliance, car les lieux sont et ils sont pleins de repères. Le mot important ici sur lequel je veux attirer notre attention, c'est le mot brigand. Qui sont les brigands? Les brigands, ce sont des esprits méchants, ce sont les esprits impurs. Ce sont ceux-là que le prophète identifie ici. Pourquoi? Eh bien, parce que ces esprits impurs, quand ils viennent, pendant que l'on dort, lorsqu'ils viennent nous oppresser, et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Les brigands ici, ce sont ces esprits impurs, ce sont ces méchantes personnes qui viennent nous oppresser pendant que nous sommes dans notre sommeil. Le psalmiste dit ici, identifie ici les brigands. Et il dit quelque chose de très important. Il dit qu'il y a des lieux sombres dans le pays qui sont le repère des brigands. Les brigands sont des créatures qui opèrent essentiellement la nuit, dans des endroits en général où très peu de personnes vont et comprennent. Les lieux sombres ici, il est en train de parler de la nuit. C'est une métaphore qu'il est en train de faire. Dis avec moi les brigands. Cet enseignement a pour but de les exposer encore une fois. Ils opèrent essentiellement la nuit, tels des voleurs. Ils viennent pour une chose, faire le travail, le boulot de leur père. égorger, voler et détruire. Les brigands qui travaillent que la nuit travaillent dans un environnement que j'ai appelé une société secrète. Parce que le monde de la nuit est une société secrète. Les enfants de lumière ne travaillent pas à la nuit. La nuit, c'est un autre monde. Ces brigands sont des créatures méchantes et malveillantes et extrêmement cruelles qui obéissent à leur père, qui lui aussi est un chef tyrannique qu'ils veulent à tout prix honorer et à faire plaisir. Sinon, ils auront affaire à lui. Quand nous sommes dans notre sommeil, ces créatures viennent, ces esprits humains viennent et nous oppressent. Le monde invisible, la nuit est un monde invisible et spirituel, rempli d'activités horribles et perverses destinées à opprimer les hommes, les femmes et les enfants. Et ce sont eux qui sont les responsables de tout ça. Aujourd'hui, j'ai envie d'attirer ton attention sur ce point. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut que tu saches ce qui se passe quand tu dors la nuit. Tout le monde rêve la nuit, n'est-ce pas? Ce n'est pas toujours des bons rêves que nous faisons. Parfois, nous faisons même des rêves prémonitoires. Des rêves où nous arrivons à voir ce qui va arriver plus tard. Un jour, ma maman se réveille un matin et elle vient au salon et elle dit, ah, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit. Je dis, tu as fait quel rêve? Elle me dit, mais j'ai rêvé que tel tonton était là dans le rêve et puis on s'est mis à parler lui et moi. Mais la discussion avait l'air vraiment réelle. Hein. Il t'en lui et moi. Un tonton, nos tontons proches. Et je dis, ah bon, vous discutiez? Et vous discutiez de quoi? Elle dit, ben, il est venu, j'étais dans ma maison. Et il est venu, et je lui ai demandé, oh, tu fais quoi ici? Tu es venu faire quoi? Et il me dit, je suis venu te dire au revoir. Pourquoi tu veux me dire au revoir? Parce que je m'en vais. Et comme dans la famille, tu es une personne que j'apprécie beaucoup, parce que tu m'as beaucoup aidé, tu m'as beaucoup aimé, je suis venu te dire au revoir. Prends bien soin des enfants, prends bien soin de ceci, etc. etc., etc. Et puis on a discuté et il me disait au revoir, après on s'est fait de la colère et puis il est parti. Mais ça m'a fait vraiment bizarre et je suis inquiet. Je vous assure bien aimé, même pas 30 minutes, le téléphone a sonné pour lui dire qu'il était décédé. J'étais là. Ça m'a marqué à vie, j'ai jamais oublié ça. Elle dit, oh, non, c'est pour ça que j'ai fait le rêve là. Il est vraiment venu me dire au revoir. Donc, moi, quand je vois ça, je dis, mais, gars, dans l'histoire de rêve, il y a un truc que je comprends. C'est réel, en fait. C'est un monde réel. Dans les rêves, Dieu nous parle. La semaine prochaine, je ferai un focus sur cette plateforme de communication que Dieu utilise pour nous parler. Mais aujourd'hui, je vais plus exposer l'ennemi. Dieu nous parle, mais le diable aussi travaille. Et il faut savoir qui il est. Qui sont ces esprits mauvais? Qui sont ces esprits impurs qui viennent nous oppresser? Il n'y a que Dieu seul qui peut te faire comprendre qui ils sont et ce qui se passe réellement dans le monde de l'esprit pendant que tu dors. Toutes les personnes qui opèrent dans le monde de la nuit, le monde spirituel de la nuit, sans l'autorisation de Dieu, est un sorcier. Il ne fait rien de bon. On ne peut pas opérer dans le monde de l'esprit sans l'aide de Dieu et dire qu'on fait quelque chose de bon. Alléluia. Même un ganga chez qui tu vas te faire couper les mains et les scarifications, qui dit que soi-disant il va te protéger et en général ils font ça la nuit, c'est pas bon. C'est pour te tuer. Car à chaque scarification qu'il fait sur ton corps, il te marie à un esprit. Alléluia. Dis avec moi les brigands. Les brigands sont des agents au service du quartier général du mal. Ce sont des esprits méchants, mauvais, mais aussi vaincus au nom de Jésus. Toutefois, ils sont tenaces et profitent de l'ignorance du peuple de Dieu pour les oppresser. Et il faut les identifier. Il faut que tu comprennes ce qui se passe chaque fois qu'un esprit mauvais vient t'oppresser la nuit quand tu dors. Car Jésus-Christ a bien dit dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu pendant que les gens dorment. L'ennemi ne viendra jamais de manière visible pendant que tu es éveillé. Pourquoi il vient pendant que tu dors? Parce que pendant que tu dors, la nuit quand tu dors, ton corps est inerte. Tu es totalement vulnérable et exposé spirituellement. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de prier avant de dormir. Rassure-toi, ça m'est aussi arrivé de m'endormir sans prier. Mais depuis que je fais cet enseignement-là, je prie tous les soirs. Parce que j'ai... tous les soirs, je prie, je dis, ah Dieu, vraiment, merci parce que durant cette nuit, il y a une muraille de feu autour de moi, au nom de Jésus. Vous savez quoi? Depuis que je fais cet enseignement, je fais même très très attention à ne pas m'endormir très fatigué. Parce que la journée, on se dépense et on s'épuise physiquement et spirituellement. Et quand tu es épuisé spirituellement, ça se ressent aussi dans le rêve. Parce que tu vois un esprit qui vient et tu vois que tu ne peux pas lutter parce que tu es fatigué. Et en fait, le vrai épuisement, c'est l'épuisement spirituel. Parce que j'ai vécu des choses quand j'étais épuisé spirituellement. Et j'ai vu que je n'ai pas dormi de la même manière quand j'étais en forme. Quand je suis en forme spirituellement, je t'assure, tu dors bien. Quand tu es épuisé, automatiquement, ils le sentent et ils viennent te déranger. Quelqu'un me dira ici, pasteur, moi je n'ai jamais vécu ça. Je dors très bien la nuit. Je n'ai pas d'oppression. J'ai envie de lui dire, comme disait mon père, vis encore. Vis encore longtemps. Alléluia. Regarde ce que Paul nous dit dans Éphésiens. Nous sommes en train de rentrer doucement dans le message. Paul nous dit ceci dans Éphésiens chapitre 5 au verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi.
Réveille-toi.
Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans la version parole vivante, c'est intéressant, il dit, ne vous compromettez pas en participant aux entreprises infructueuses que favorisent les ténèbres. Prenez plutôt parti contre elles, dénoncez leur caractère futile et mauvais. Vous voyez bien ce que je veux dire, car tout ce qui se trame dans le secret est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand on met ces choses à nu, leur véritable nature paraît à la lumière, et ceux qui se laissent éclairer par la lumière est capable de devenir à son tour lumineux. N'est-ce pas votre cas? Comme il est dit dans un cantique, « Ô toi, dormeur, réveille-toi d'entre les morts. » Relève-toi sur toi, luira le vrai soleil, le Christ éclairera. Donc, en d'autres mots, dors pas beaucoup. Sois éclairé. Que ton sommeil soit un temps de repos, certes, mais pas un temps d'épuisement au point où on vient te tuer, tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. Paul cite ici les œuvres infructueuses des ténèbres. Il dit, n'y prenez point part. Le mot ténèbres ici, c'est quoi ténèbres? Le mot ténèbres ici est extrêmement important. Et je vais attirer notre attention sur ça. Il y a quoi le mystère des ténèbres? J'utilise le mot mystère parce que tout simplement, les ténèbres sont très incompris des gens. Mystère veut simplement dire vérité cachée ou encore secret. Les ténèbres sont le repère des brigands, des esprits mauvais. Il n'opère que dans les ténèbres. Il n'opère que la nuit. Rares sont les gens qui sont oppressés en journée. Si tu es aussi oppressé par des esprits mauvais en plein jour pendant que tu es éveillé, gars, tu es proche de la folie, il y a un problème. Il faut te délivrer. Car si tu es là, assis sur ta chaise, devant ton ordinateur ou devant la télé ou je ne sais pas où, à l'école, et puis là, tu es en train d'être oppressé, éveillé, ça veut dire que l'oppression a atteint un autre niveau. Te délivrer. Mais en général, tu es plutôt sans problème la journée. C'est quand tu vas dormir qu'il se passe des choses. Dis avec moi le mystère des ténèbres. Ténèbres vient du grec skotos, qui veut dire obscurité de la nuit, ignorance concernant les choses divines, tout ce qui accompagne l'impiété et l'immoralité avec toute la misère de l'enfer. Skotos. Faut pas appeler ton enfant comme ça. Ténèbres, dire absence de lumière. Ça veut dire que là où il y a les ténèbres, il n'y a pas la lumière là-bas. Quelle que soit l'activité qui se fait dans les ténèbres, il n'y a pas de lumière là-bas. C'est pour ça que tout ce qui touche la nuit, il faut être très prudent. Tout ce qui se fait de nuit, il faut être extrêmement prudent. Parce que la nuit, c'est le repère des brigands. C'est là où les chiens du diable sont lâchés. Donc, dès le moment où tu es associé à une activité qui se fait la nuit, dans les ténèbres, fais gaffe. Parce que c'est le repère des brigands. Les ténèbres ne sont pas une œuvre de création. C'est la conséquence de l'absence du soleil. Les ténèbres, c'est un environnement incertain et pas du tout sécurisé. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres t'exposent au danger. Tu es plus vulnérable quand tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi avec exactitude. Les brigands opèrent la nuit, pourquoi? Parce qu'ils savent que la nuit, tu es totalement déstabilisé. Si tu veux vraiment, un jour j'ai fait le test, je l'ai fait moi-même personnellement. On va aussi à faire la même chose pour mieux comprendre qu'est-ce que le pasteur est en train de dire par ténèbres. Tu vas juste pas sur la courbe et puis tu fermes totalement les bandes, les épaules de marcher. Tu vas voir comment c'est compliqué. Eh bien, c'est la même chose quand on dort. C'est pour cela qu'il est important quand on dort de demander à Dieu de nous éclairer sur ce qui va se passer autour de nous dans l'esprit. Alléluia. Parce que dans l'esprit, tout a l'air ténébreux autour de nous. On ne voit pas clair ce qui se passe autour de nous. On voit des choses se passer. Mais souvent, quand tu te réveilles, tu ne te souviens pas exactement de ce qui s'est passé. Parce que tu étais dans les ténèbres. C'est pour cela que quand Dieu te parle dans le rêve, c'est souvent juste une voix que tu entends. Et même d'ailleurs, l'ennemi, quand il te parle aussi, c'est souvent une voix que tu entends. Mais quand tu vois quelqu'un, là c'est pire. Ça veut dire que là, il a décidé de t'attaquer de face. Les brigands. Et dans les ténèbres, on se déplace en errant. On cherche notre chemin. Alléluia. Si tu me suis fait comme ça. Ces brigands qui opèrent dans les ténèbres, chaque fois qu'ils opèrent, il y a toujours quelque chose qui les accompagne, c'est la confusion. Quand tu sors du sommeil, quand tu sors de ton sommeil et que c'est confus dans ton esprit, tu ne te souviens pas du tout de ce qui s'est passé, il y a un souci. Moi, j'ai fait une prière à Dieu, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, suite à ce que tu es en train de nous enseigner maintenant, je veux que tu m'apprenne à exercer mon esprit pour que je me souvienne de tous mes rêves. Il y a des gens dans la Bible qui s'étaient exercés à ça. Un très bon expert à cela, et on verra ça dans la suite de l'enseignement, c'est Daniel. Daniel comprenait les rêves. Il savait exercer son esprit aux rêves. Daniel, dis avec moi Daniel, le gars là est fort. Nabucodonosor dit, j'ai fait un songe, mais je ne vous dis pas le songe. Dites-moi de quoi j'ai rêvé et expliquez-moi ça. Les gens disent, c'est trop fort, il n'y a que les dieux qui peuvent. Mais dis-nous le rêve. Il dit, non, vous voulez gagner du temps, je vais vous. Il dit quoi? Je vais vous mettre en pièce si vous ne me dites pas mon rêve. Il te dit qu'il va te mettre en pièce. C'est... Le roi dit ça. Les gars, ils ont sérieusement eu peur. Daniel va voir le chef des satrapes et puis il dit, mais pourquoi le roi veut tuer tous les sages et les mages du royaume? Non, et le roi a fait un rêve. Et puis il dit qu'il faut qu'on donne son rêve. Et le gars, il est. Mais regarde le courage de Daniel. Daniel dit, roi, laisse-nous trois jours. Et il ose dire au roi, laisse-moi 3 jours et je reviens avec l'explication. Ah, ça c'est un gars qui connaît son Dieu quand il prie. Est-ce que tu te rends compte? Ça c'est la foi. Aller voir Dieu et aller voir le roi et dire, je suis convaincu que Dieu va me donner le rêve qu'il a eu. Il connaissait son Dieu. Il va, même pas un jour, fait le rêve. Dieu lui montre, il repart et il explique. Il avait appris à exercer parce que c'est une chose que Dieu te donne le rêve. Après, il faut comprendre ce que ça veut dire. Au point même où il est resté dans le gouvernement qui a suivi, et quand le nouveau roi est arrivé, on a fait encore appel à lui. Quand l'autre roi avait vu la main sortir du vide et écrire trouver, peser, trouver, léger. Et il fallait que Daniel vienne expliquer ça aussi. Le gars, il était fort dans ses histoires de rêves et de visions. Alléluia. La puissance des ténèbres est quelque chose qui rend actif, captif, et te limite. Quand tu es dans les ténèbres, tu es limité. Les ténèbres ont une puissance qui sépare et qui provoque la division. Tout ce qui se fait dans les ténèbres provoque toujours la division. Je suis toujours sur les ténèbres. Qu'on comprenne bien dans quoi on est en train de mettre les pieds. La plupart des actes mauvais se font pendant les ténèbres. Les sacrifices, les vols, la sorcellerie, les sociétés secrètes, les agressions de démons de toutes sortes, les soirées en boîte de nuit, les discothèques, les buvettes, les bars, la prostitution, les crimes, toutes ces choses, tu n'as pas remarqué que ça se fait toujours la nuit. C'est le repère des brigands. Tu n'as pas remarqué que quand tu étais dans le monde, tu aimais les boîtes de nuit. Mais maintenant que tu es en Christ, normalement, chrétien normalement constitué, tu ne dois pas aimer les boîtes de nuit. Dans le monde, tu aimais les boîtes de nuit, les discothèques et les bars parce que tu étais toi-même dans l'obscurité. Maintenant, quand tu es éclairé dans l'esprit, tu dis, ah, les boîtes de nuit, gars, je sens plus ça, c'est pas bon. Dans les boîtes de nuit, sexe, drogue, alcool, violence, mensonge, envie, plein de mauvaises choses. Mais tu n'as pas remarqué que les gens qui sont dehors, ils aiment ça parce qu'ils sont dans les ténèbres. Un enfant de Dieu en Christ ne doit pas opérer dans les lieux associés à la nuit, sinon il joue avec le feu de l'enfer. Un enfant de Dieu qui décide, par exemple, je vous donne un exemple simple, qui décide de se lancer dans une activité qui touche la nuit, qui se fait la nuit, il est fortement en danger. Parce qu'il peut dire qu'il prie comme quoi? C'est compliqué. Parce que la nuit, tu es exposé à trop de mauvaises choses. Et tôt ou tard, ces mauvaises choses vont t'atteindre si tu ne sors pas de là. Alléluia. Donc le ténèbre, tout ce qui touche à la nuit, c'est le repère des brigands. Et toutes ces choses-là, qui sont à la fois naturelles, sont aussi spirituelles. Car dans la nuit aussi, il y a de mauvaises choses qui se font. Amen. Je vais te poser 4 questions au sujet des brigands qui travaillent la nuit et qui agissent dans les rêves. Dont le repère, c'est les ténèbres. La première question que je te pose, les concernant, ces esprits impurs, travaille la nuit et qui nous oppresse. C'est qui ils sont? On a dit c'était des Néphilim, tout ça, ok. Mais maintenant il faut les identifier. Car ils ne sont pas tous les mêmes. Alléluia. Ces brigands que le psalmiste comme les psalmistes, le psalmiste les appelle dans le psaume 74. Ces brigands, premièrement, vous les connaissez très bien, ceux-là, les maris et femmes de nuit. Faire un dessin ou de rentrer encore dans une longue explication, je pense qu'on a beaucoup dit à leur sujet. D'accord? Les esprits impurs qui agissent de nuit pour oppresser sexuellement les gens. On aura un autre enseignement sur ce point plus exactement, sur la sexualité. 2. Les sorciers, dis avec moi les sorciers. C'est qui les sorciers? Les sorciers, ce sont des esprits impurs provenant de vraies personnes encore vivantes sur la terre, qui sortent de leur corps la nuit ou encore qui sortent en vampire pour oppresser d'autres personnes dans leur sommeil. Et Harry Potter, le petit ami, en fait partie. Les sorciers sont des gens qui travaillent que la nuit. Parfois, il y a des gens qui sont oppressés dans leur sommeil. Et les personnes qui viennent les oppresser dans leur sommeil, ce sont des sorciers qui sont sortis de leur corps et qui sont en esprit. Le sorcier, il sort de son corps Et quand il sort de son corps, il est en esprit. Et quand il entre dans le monde de l'esprit, il voit d'autres esprits avec qui il est familier ou pas. Parfois, il y a des sorciers qui sortent la nuit et qui rencontrent d'autres sorciers. Et même parfois, en rencontrant un autre sorcier la nuit en esprit, ce sorcier peut aussi l'agresser lui-même. Ils s'agressent entre eux. Il y a des gens qui sortent en vampire et puis quand ils se réveillent le matin, il a pris des coups. Comme dans l'esprit, il n'y a pas de distance, parfois ils font même des voyages à l'autre bout de la terre et ils reviennent. Et ils font ça toutes les nuits. Il y en a qui sont devenus experts en la matière. Ils font du shopping et ils reviennent. Mais je vous assure, oh, mais vous blaguez. Hein? Vous blaguez. Vous blaguez. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire. Il y a tout l'enfant au milieu de nous. Il risque d'avoir peur. Mais il y a beaucoup de choses. Hein? Une fois, il y a une jeune fille que j'appréciais beaucoup. Hein? Que j'appréciais beaucoup. Qui me parlait. Ma mère me disait pas mal de choses. Depuis qu'elle avait commencé à écouter les enseignements, elle était touchée par les enseignements. Et puis elle avait un petit copain. Et son petit copain, c'était un blanc. Il vivait à l'étranger. Et son petit copain avait décidé de venir ici pour vivre avec elle, au Gabon. Un blanc de bonne famille, bien élevé, tout ça. Et le blanc, en évoluant à Libreville, a commencé à fréquenter des gens. Et ces gens l'ont emmené dans le boutique. Et quand il est parti dans ces histoires de boutique, je connais très bien le boutique parce que mon papa était bouddhiste. Rassure-toi, il ne m'a pas initié à ça. Parce qu'on va dire, ah, le pasteur est bouddhiste. Non, le pasteur n'est pas bouddhiste. Rassure-toi. Ça aussi, c'est la sorcellerie, cette histoire. Et le jeune homme vient un jour annoncer à la fille, qui, elle, à sa manière, cherche Dieu aussi, qu'on m'a initié au bouddhisme. Elle dit, on t'a quoi? On m'a initié au bouddhisme. Ils vivaient ensemble et tout à Libreville. Il lui a dit, mais on t'a initié, c'est-à-dire, non, on m'a amené à une cérémonie. Et en fait, je ne te l'ai pas dit, mais depuis un certain temps maintenant, je vais à ces cérémonies. Maintenant, je voulais te le dire. Il a dit, pourquoi tu me le dis qu'aujourd'hui? Parce que j'ai envie aussi de t'emmener. Pourquoi? Parce que c'est trop bien. Qu'est-ce qui est bien? Il dit, parce que je fais le voyage astral. Je voyage. Tu voyages, tu vas où? Ben, il dit, je voyage et je vois des choses. Des choses magnifiques. Il dit, explique. Ben, je voyage. Elle dit, ça se passe comment? Dis-moi, ça se passe comment? Elle est gabonaise. Ça se passe comment? Dès qu'il a dit, en fait, je sors de mon corps. Ah! Tu sors de ton corps. Jésus-Christ de Nazareth. Là, elle connaît Jésus. Ouais, je sors. Toi, petit blanc qui est venu ici au Gabon, tu sors de ton corps. Et tu vas où comme ça? Je voyage. C'est trop bien, il faut que tu viennes avec moi faire ça. Et puis mes mentors qui m'ont mené là-dedans, ils m'ont dit que si tu ne fais pas ça avec moi, on ne peut plus rester ensemble, toi et moi. Elle dit, je préfère. Perturbée, elle est venue me voir et elle m'explique tout ça. J'ai dit, enlève ton corps de la vie. D'ailleurs, je t'avais dit depuis d'arrêter tes bêtises là dans le péché. Là. Maintenant, tu es me sortir. Maintenant, c'est un sorcier, pire encore. Elle dit, c'est un sorcier. Mais c'est un sorcier, tu sais quoi? Mais pourtant, il ne fait pas des mauvaises choses, mais c'est un sorcier. Blanc là est devenu sorcier. C'était compliqué, mais finalement elle l'a laissé. Donc aujourd'hui on a un blanc français qui est au Gabon qui est devenu sorcier et qui a l'habitude de sortir. Donc le sorcier c'est ça, il sort de son corps et dans les rêves, c'est-à-dire en esprit, parce que en esprit la nuit pendant que tu dors dans ta couche, tu es sur ta couche. Tu es en train de dormir. Ton esprit n'est pas sorti de ton corps. Ok? Maintenant, tu vas me dire, mais pasteur, mais comment ça se fait que de ton... si je ne suis pas sorti de mon corps et que je suis toujours dans mon corps, comment ça se fait que dans l'esprit, je me vois en train de me balader, je me vois en train de faire des choses, etc. Parce que le monde de l'esprit, il n'y a pas de distance. Tu peux être là et en même temps être ailleurs. Dans l'esprit. Tu peux être chez toi et au même moment, au même instant, pendant que tu es en train de dormir, dans l'esprit, Dieu t'emmène à un endroit et puis tu vois des choses et tu reviens. Mais parfois même, tu es couché sur ta couche et tu es ailleurs en même temps en train de voir des choses. En fait, ce n'est même pas Dieu qui t'y emmène, c'est toi-même. Parce que quand tu es dans ton rêve, Dieu n'est pas avec toi. Tu es en train de te balader, tu fais des choses et tu rencontres des gens. Donc Dieu n'est pas avec toi. Donc ton esprit, un peu comme un adulte qui sait marcher et aller prendre le taxi, mais la nuit aussi, il voit des choses. Mais pasteur, ça veut dire que je quitte de là où je suis. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de distance. Tu peux être à un endroit et voir ce qui se passe à l'autre bout de Libreville au même moment, la nuit. Et puis tu te réveilles en disant, oh, il y a quelque chose qui va arriver à Libreville, je l'ai vu. Vous me suivez? Sauf que là, tu ne le fais pas de manière intentionnelle. Donc Dieu permet que tu fasses ça. Mais dès que ça devient de manière intentionnelle, c'est-à-dire quand tu te couches là, tu prévois de sortir. Dieu dit là, tu es sorcier. Alléluia. Si vous allumez votre télévision un jour et que vous voyez des dessins animés qui enseignent nos enfants à être sorciers, enlevez ça vite. Parce que le monde est rempli de sorciers. Les grandes chaînes de télévision, les grands films que souvent on aime, qu'on apprécie, tout sont faits par des sorciers. Tout ce qui est du monde de l'enfant, aujourd'hui, pour beaucoup de dessins animés, sont des dessins animés intentionnels pour préparer les enfants à devenir sorciers. Pas plus tard que la semaine dernière, on était dans un restaurant de la place, et dans ce restaurant, on arrive et puis il y a des figurines de mort partout dans le restaurant. J'ai dit pourquoi il y a tout ça? Il dit parce que c'est Halloween, nous fêtons Halloween. Et puis tu vois une ribambelle d'enfants dans le magasin qui sont tous déguisés avec des visages bizarres, tantôt des visages d'animaux, tantôt. J'ai dit ça c'est la sorcellerie. Et une nuit l'enfant avait dit papa je suis sorti de mon corps, c'est dit yeah. Bien, je te délivre. Alléluia. Les brigands de nuit qui agissent dans les rêves, les sorciers de leur vivant, beaucoup font ça. Beaucoup font ça. Bien aimé, moi je suis quelqu'un qui a grandi au Gabon, entouré de ces choses-là. Je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vu de ces choses il y a. Au début, je ne comprenais pas. Maintenant que je connais la parole de Dieu, je comprends très bien certains événements que j'ai vécu dans ma vie. C'est très bien. Je sais identifier ces choses-là. Dès que quelqu'un, je dis, toi, tu es sorcier. Une fois, j'étais au lycée Lomba, j'étais en classe de 3e. Et on avait décidé ce jour-là de sécher les cours avec quelques camarades de classe. On sèche les cours le matin et puis on est parti au BDM. En haut là-bas. Ceux de l'époque savent de quoi je parle. C'était aussi des gros, on se reconnaît en groupe, n'est-ce pas? On était dans un bar, dans une buvette. On est tous, véridique, hein? C'est ce que j'ai vécu. On est tous autour de la table. On est en train de rigoler, on parle des petites, on parle de tout, tout, tout. Pendant que nous sommes tous là, moi j'avais pris le jus parce que moi depuis que je suis petit, je n'ai jamais vraiment aimé la bière ou les alcools. Donc j'avais pris juste un jus, un coca. Les autres avaient pris des regards et puis tout ça. On est là et puis tout d'un coup, l'un de nos camarades commence à étouffer. Il n'a plus d'oxygène. Panique, il est en train de s'étouffer sur place. Il est là. Donc on panique, oh, qu'est-ce qui se passe? Le gars il tombe de sa chaise. Il n'arrive pas à respirer. Donc les gens paniquent, le monsieur du bar vient. Oh, appelez l'ambulance. Vite. On est tous là. Oh frangin. Enfin, il y en a qui commence à. La fille qui était avec lui commence à pleurer. Mais c'est quoi? On est là. Oh. Mais ça, c'est quoi? Oh. Mais pendant qu'on est tous en train de paniquer, l'un de nos camarades, il est assis. Et il regarde la scène. Et puis tout d'un coup, il fait, oh les gars, arrêtez. Mais, arrêtez! Il ne va pas mourir. Quand il dit, il ne va pas mourir, non, on s'arrête. Il dit, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est moi qui est en train de lui faire ça. Quoi? gars, tout le monde dans le bar. Il a dit, frangin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Le gars dit, c'est moi qui suis en train de lui faire ça. Donc tout le monde se calme, tout le monde recule. Et pendant qu'il est en train de nous parler, on ne s'était pas rendu compte sur le coup, mais le gars il dit, c'est moi, regardez. Et puis il nous montre une bouteille et là, le gars il dit, il est dedans. Comme ça. Et puis on est là. Moi je suis là, je dis, je suis là, tu restes bêté, tu dis, regarde, tu as un peu peur, parce que tu es terrorisé quand tu vois des choses comme ça. Et puis il dit, c'est moi, pendant que le gars est en train de bouffer. Après il fait ça, il enlève la main comme ça, le gars fait. Comme s'il était, il était dans la bouteille. Et là, le monsieur du bar, le barman commence à crier, vous êtes un coup de poulain, c'est un sang saléré ça. Et puis bon, tu sais, le monde des païens, ils ont assisté à un spectacle et puis tout le monde retourne à ses habitudes. Voilà. Et puis autour de la table, il vient, il commence à menacer celui qui était en train de s'étouffer. Si tu recommences encore, la prochaine fois je te tue. Et en fait, on lui dit, bon, gars, expliquez-nous, on a manqué un épisode, là, il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Il dit, en fait, pendant qu'on était en train de boire, là, en train de s'amuser, le gars sort de son corps, il vient chez moi. Il est venu, il est rentré dans ma bouteille pendant que j'allais boire. Et moi, il ne savait pas que moi aussi, j'étais initié, je l'ai vu. Et quand il est rentré, là, j'ai bouché, il est resté dedans. Véridique, hein? J'étais en classe de 3e. C'est pour ça que les jeunes, quand vous êtes avec les copains à l'école, faites gaffe. Vous êtes là avec les copains, vous ne savez pas avec qui vous êtes autour de la table. Ils rentrent dans ta bouteille, tu bois, que t'es fini. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu deviens fou. Je ne sais pas. Le monde de l'esprit, quand vous n'êtes pas initié, avec Dieu, je dis bien avec Dieu. Parce que moi, Dieu m'a permis de voir les choses comme ça. C'est là où j'ai dit, ah, Dieu m'a gardé. Hein. Parce que si c'était... Parce que le gars, il était assis à côté de moi, imagine qu'il avait choisi ma bouteille. Je ne sais pas, peut-être ce jour-là, je ne m'étais pas suffisamment maquillé. Et puis, il a dit, bon, lui... Hein. J'ai dit, ah, ça, c'est la grâce de Dieu. Ah. Nous, Dieu nous a gardé. Hein. Oh. Mais, chrétien, faut dire à quelqu'un, gars... Il faut chercher Dieu, il faut venir à l'église. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur parce que tout ça, quand tu comprends tout ça, tu ne blagues pas avec ta foi. Hein. Moi là, je suis coincé avec Jésus. Je ne peux plus. En racontant des trucs comme ça, tu penses que je vais laisser la main de Jésus alors que je raconte des choses comme ça. Mais, gars, ils vont me faire ça, Dieu. Les sorciers, oh, il y a tout un enseignement que j'ai fait sur la sorcellerie, on aura le temps de le voir. Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur. Il faut emmener l'enseignement là vite parce qu'il y a trop de sorciers autour de nous. Les esprits des forêts sont aussi des brigands. Waouh, le temps, il faut que je me dépêche. Les esprits des forêts, ce sont des esprits impurs qui oppressent les gens dans les rêves en forêt. Chaque fois que tu rencontres un brigand comme ça, tu es dans une forêt. Et en fait, ce sont des gens qui en esprit viennent et te prennent et t'emmènent en forêt. Et en forêt, tu es oppressé. Tu te vois dans le rêve en train de fuir quelqu'un qui te poursuit en forêt. 4. On a les hommes forts ancestraux. Qui sont ceux-là? Ce sont les esprits impurs qui sont logés depuis longtemps dans des familles. Tu es né dans la famille, il est déjà là. Parce que tout simplement, un paternel de la famille ou quelqu'un important de la famille a fait un pacte avec le nom de famille que tu portes. Et cet esprit est là de manière légale dans la famille. Et il a le droit d'oppresser tous les membres de la famille. Le simple fait que tu portes le nom et que tu appartiennes à cette famille-là, eh bien, cet esprit a le droit de t'oppresser. Alléluia. 5, on a ce qu'on appelle les traiteurs de nuit. Les traiteurs de nuit sont des esprits impurs qui nourrissent les gens dans les rêves en leur donnant des repas démoniaques. Tu te vois dans le rêve avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui est en train de te donner à manger. Et tu es en train de manger, ça te plaît, tu manges. C'est pour ça qu'on l'appelle traiteur. Parce qu'en général, on aime la nourriture du traiteur. Si tu es dans un rêve et tu es en train de te voir dans un restaurant en train de manger, avec des gens que tu ne connais pas, tu es chez un traiteur de nuit. Tu ne sais pas ce que tu es en train de manger, tu ne connais pas les gens avec qui tu es en train de manger. Très certainement, ce sont d'autres esprits qui sont en train de t'initier à quelque chose. Et parfois même, il y en a qui sont même allés jusqu'à se réveiller avec le goût de la nourriture dans la bouche pendant qu'ils, quand ils sont éveillés. Alléluia. Donc, quand tu fais ce genre de rêve-là, il faut te réveiller et déjà vomir spirituellement tout ce que j'ai mangé là. Tout poison qui a pu entrer dans mon corps, je déclare au nom de Jésus-Christ que c'est nul et sans effet sur ma vie, au nom de Jésus. Ces esprits-là qui ont voulu m'initier, je vous frappe fort, j'envoie le feu sur vous, au nom de Jésus. Alléluia. 5, les démons espions, qui sont ceux-là? J'en avais un tout petit peu parlé la dernière fois. Ce sont des esprits impurs qui s'introduisent dans les rêves avec une fausse identité pour recueillir des informations sur toi et ensuite les envoyer au royaume des ténèbres. Le plus souvent, ces esprits, quand ils viennent dans ton rêve, c'est sous l'apparence de quelqu'un que tu connais très bien. Et puis tu parles avec la personne et tu es en train de lui donner des informations. Il recueille ces informations pour ensuite les envoyer à d'autres esprits qui vont maintenant t'oppresser au travers de ça. Alléluia. 6. Les manipulateurs de rêves. Eux, ce sont des esprits impurs qui manipulent les rêves pour introduire des mensonges dans ton esprit et détruire ta destinée. Ils agissent beaucoup avec les célibataires qui cherchent à se marier. Regardez, je vous donne une expérience. Pas la mienne, mais souvent que l'on entend dans l'église. Des gens qui se lèvent le matin viennent dire au pasteur, « Pasteur, j'ai rêvé que cette femme qui est là dans l'église, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, est ma femme. » Mais tu as fait le rêve là comment? Tu as eu ça où? Dieu m'a montré que c'est ma femme. Dieu m'a montré que c'est mon mari. Et des mariages dans les églises sont célébrés sur la base de rêves et de visions. Te marie jamais parce que quelqu'un est arrivé de toi. Jamais. Bon, ça n'arrivera pas ici, très certainement. Mais si tu es là, ou si tu es en train d'écouter cet enseignement, et que tu es sur le point de te marier avec quelqu'un qui t'a vu en rêve, ou que tu as vu en rêve, c'est un mensonge du diable. Parce que le diable connaît très bien la portée du mariage. Et il n'a qu'un seul objectif derrière ce rêve mensonger, détruire ta destinée. Parce que le fait de te marier avec la mauvaise personne, ta destinée est compromise totalement. Et c'est difficile à rattraper après. Il y en a, ils disent, ils ont rêvé de la fille. Le pasteur dit, ok. Il revient quelques temps après en disant, pasteur, j'ai rêvé d'une autre personne. En fait, ce n'était pas la bonne, la fille dernière. En fait, c'est celle-là, ma femme. Voici quelqu'un qui est victime des esprits manipulateurs des rêves. 7. Esprit de mort, esprit impur qui s'introduisent dans les rêves pour assassiner les gens. Souvent, les gens retrouvés sans vie dans leur sommeil sont des victimes de ce type d'esprit. Et il y en a beaucoup, hein, des témoignages de ce type-là. Un jour, il y avait un groupe français qui avait beaucoup cartonné, To Be Free. Trois blancs là, qui aimaient danser, torse nu, tout ça. Et qui aimaient les filles. Le leader du groupe, un jour, comme ça, je me baladais sur Internet. Je vois dans les informations, il a été retrouvé mort chez lui, sans vie. Il ne s'est pas réveillé. Quand on fait l'autopsie, son cœur a juste arrêté de battre dans son sommeil à l'âge de 30 ans. Aucun coup de violence, rien de tout. Il était en très bonne santé, tout le monde le connaissait. Pas de problème cardiaque, rien du tout. Dans son sommeil, il a arrêté de vivre. Esprit assassin. Il a pris une balle dans son rêve. Alléluia. Les types de rêves où tu vois des personnes qui veulent te tuer, ou des animaux qui veulent te mordre, des serpents, des chiens, des gens qui veulent te tuer, quoi. Ce sont des esprits assassins. En général, si tu te réveilles d'un rêve terrifié et que tu as été mordu par un animal, plus particulièrement par un serpent, là tu dois sérieusement prier, parce que là tu t'es fait mordre, et quand tu t'es fait mordre, ça veut dire que la mort n'est pas loin. Alléluia. Comment on n'est pas loin. Pourquoi blaguer avec ça? Si un jour vous sentez, vous faites un rêve, vous faites un rêve répété où on veut vous tuer, ça veut dire qu'il y a un esprit de mort qui est en train de rôder. Il faut le chasser. Il faut le détruire. Il y a quelque chose qui a attiré la présence de cet esprit dans ta vie. Obligatoirement. Si ce n'est pas un acte que tu as posé, ou bien une personne avec qui tu t'es associé, qui avait cet esprit-là sur lui, automatiquement, il vient sur toi. Amen. Tous les gens qui avaient un lien avec la mort et que tu t'associes à eux, tous les esprits qui sont sur eux viennent sur toi. Amen. Ouais. Alléluia. Les brigands de nuit, ceux qui agissent dans les rêves. La deuxième question que je te pose, c'est quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce qui les caractérise, ces esprits-là? Il est important de comprendre que ces esprits, premièrement, sont persévérants. Ils sont tenaces. Ils lâchent rien. Tu peux prier, prier, prier. Souvent, tu vas voir que ces mêmes esprits reviennent t'oppresser. Il faut prier plusieurs fois pour les chasser. Parce que ce sont des néphilim. Ce sont des géants. Ce sont des esprits qui viennent avec une mission bien spécifique. Ils sont experts en la matière. Donc, tu ne les chasses pas comme ça. Et quand ils viennent t'oppresser, leur objectif, c'est d'accomplir la mission que Satan leur a donnée. Ils sont fils de leur père. Et tout comme Satan est venu tenter Jésus et que Jésus n'est pas tombé dans le panneau, la Bible a écrit que Satan s'éloigna pour un moment plus favorable. Ces mêmes esprits, pareil, quand tu pries beaucoup, quand tu as des peurs, tu es vraiment dans la prière, ces esprits reculent. Et puis ils attendent un moment favorable où cette fois-ci tu seras vulnérable et épuisé. Et ils reviennent à la charge. Ils sont persévérants, ils sont aussi persuasifs. C'est-à-dire, s'ils n'arrivent pas à t'avoir de front, ils vont tout faire pour te convaincre de désobéir à Dieu. Ils peuvent tout faire pour t'éloigner de la présence de Dieu. Si par exemple, tu es un chrétien qui prie beaucoup, et tu pries beaucoup, donc ce n'est pas facile à avoir quelqu'un qui est éclairé dans l'esprit. Donc c'est quelqu'un à qui, dans les rêves, on va essayer de lui montrer des choses pour le tromper. Qu'il croit qu'il a eu des visions de l'éternel. Et puis tu commences à prendre des décisions et faire des choix, pensant que... Regarde, je te raconte un exemple concret que nous vivons aujourd'hui avec mon épouse. Mon épouse et moi, ça fait des mois et des mois que nous sommes en train de préparer le lancement de notre école, la Digital Business School. On a préparé. Je suis vraiment sur ce projet. C'est un projet très important pour nous. On approche du lancement de l'école. On était convaincus que ça vient de. On est convaincus que ça vient de Dieu. Mais voilà maintenant qu'une situation se présente où soi-disant Dieu a ouvert une porte. Nous voici dans les mains tout de suite avec un grand bâtiment entre les mains. Et en fait, ma femme, dès qu'elle a vu ça, elle disait dès le début, c'est super génial, mais je suis convaincu que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Et puis moi, je priais pour avoir la direction de Dieu. J'ai même emmené des frères et des sœurs sur le lieu. J'avais même déjà montré le bâtiment à certaines personnes. Et puis un jour, j'ai dit, bon Dieu, là, je vais prier pour prendre la bonne décision pour savoir si j'acquiers. Tu sais, quand tu es sur le point d'acquérir un bien immobilier, de grande importance prie toujours. Pourquoi? Parce que c'est une acquisition très importante. J'étais enthousiaste. Et à quelques jours du lancement du contrat, j'ai dit, bon Seigneur, comme là je vais signer le contrat, je vais aller prier encore. J'ai pris un temps de jeûne et puis j'ai dit je vais prier. J'ai prié un matin, j'ai beaucoup prié dans mon bureau pour ça. J'ai prié. Le soir, quand je vais dormir, je dors. Et là dans le rêve, je me vois en train d'enseigner dans mon école. Sauf que là, je ne suis pas dans le grand bâtiment. Je suis dans une petite salle. Et je suis en paix. Parce que la paix est un facteur très important. Je suis en paix. Et puis quand je me réveille, la pensée est forte dans mon esprit. Commence là. Ça, c'est pour plus tard. Et plus tard, c'est même pas là que tu iras. Ce sera même mieux. Je me suis réveillé de mon rêve. J'ai dit, ah Dieu, le rêve, c'est fort. Hein? Parce qu'en fait, avant de dormir, j'avais fait cette prière avant de dormir. Tu n'étais même pas là, tu étais au salon. Je m'étais couché. Et comme j'attendais, je devais envoyer le document signé par mail le lendemain matin dès 9h. Donc, avant de dormir, je fais cette prière. J'ai dit, Dieu, si c'est vraiment ta volonté, montre-moi un rêve, un signe qui prouve que tu es d'accord avec ce choix que je vais faire. Et dans le rêve, et dans la nuit, je fais ce rêve. Ah, Dieu est trop fort. Alléluia. Ça, c'est super important. Et ils sont très persévérants. Ils vont tout faire. Parce qu'en fait, ils savent que si je faisais le mauvais choix, c'est ma vie et mon ministère qui peuvent prendre un coup. Alléluia. Ils sont menteurs et trompeurs, comme je viens de le dire. Ils sont experts en la matière. Ils savent comment te faire peur et t'effrayer. Et ils ciblent en premier le blocage de ton potentiel humain. Par des rêves mensongers ou voire effrayants, ils peuvent bloquer ton processus d'imagination pour t'empêcher de libérer tes dons et tes talents. C'est-à-dire qu'ils vont te montrer des choses pour t'effrayer. Et quand tu as peur et que tu es effrayé, voire tu doutes, tu ne peux plus libérer ton potentiel. Tu n'es plus créatif. Tu ne peux plus te déployer. Alléluia. Ils usent de ruse, mais surtout de peur, parce qu'ils connaissent le pouvoir de la peur. C'est ce que Josué a vécu. Livre de Josué, chapitre 1. Il s'est réveillé un matin, il a été effrayé. Parce que le livre de Josué commence en disant au temps où... est-ce qu'on peut lire Josué, chapitre 1? Livre de Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » En d'autres mots, le gars, il s'est réveillé un matin, Moïse était mort. Et cet événement l'a terrorisé. Mais le grand Josué, batailleur, guerrier, qui a rencontré toutes sortes de victoires, comment il peut se réveiller un matin avec la peur au ventre? Comment? Parce qu'un esprit l'avait saisi. Comme Élie, qui dit dans la nuit, dans le livre de Job, j'ai vu un esprit qui vint et qui se montra, qui se présenta à moi. Et j'étais tout tremblant, terrorisé. C'est ce que Josué avait vécu. Parce que quand Satan a vu la mort de Moïse, il est parti rendre visite à Josué. Satan n'attendait que ça, que Moïse meure. Et quand Josué, fils de Nun, restait toujours sous la tente pendant de la rencontre, quand Moïse sortait, Satan voyait tout ça. Et Satan avait compris depuis longtemps que c'est Josué qui devait prendre la relève. Mais comme Moïse était là, Moïse, il y avait toute l'onction de Moïse qui était là. Satan ne pouvait pas s'approcher. Mais quand Moïse est mort, avant qu'il aille se disputer le corps là-bas de Moïse, il est venu voir Josué, il a dit, essaye. Mais ce que Josué a vécu, la Bible nous le cache. Tout ce qu'on sait, c'est que ce gars était terrorisé. Pourquoi il était terrorisé? Parce qu'il avait un démon, mon ami. Il avait rencontré un démon qui l'avait terrorisé. Parce que quand il a vu l'ampleur de la tâche, il a eu peur. Et le diable lui a dit, tu vois ça? Essaye. Je vais te finir là-bas une fois. Et heureusement que Dieu était là. Alléluia. Donc, ces esprits, ils sont puissants. Mais pas plus puissants que les fils de Dieu, Christ. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Car je ne suis pas en train de vous faire l'éloge du diable. Je suis en train de vous présenter votre ennemi. Mais n'oublie pas une chose. Tu es bien plus fort que lui. Il est juste rusé. Mais tu es bien plus fort que lui. Alléluia. On avance. J'ai envie de finir à l'heure. Regarde ce que Jésus-Christ nous dit. Livre de Luc au chapitre 22, verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Donc Jésus-Christ reconnaît que les ténèbres ont une puissance. Il reconnaît qu'il y a un pouvoir dans les ténèbres. Il reconnaît que le diable et toute son armée, ils ont un pouvoir. Et Jésus-Christ savait que là, au temps fixé par Dieu, la puissance des ténèbres avait maintenant tout le champ libre pour pouvoir l'attraper et aller le crucifier. Il n'a pas voulu forcer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ savait que là, Dieu avait permis. Et quand Dieu a permis, qu'on ne force pas, laisse Dieu faire. Il savait que là, s'il essayait de s'opposer, il pouvait mourir. Parce que là, toute la puissance des ténèbres avait été libérée. Amen. Donc, dans les rêves, la nuit, quand tu dors, ces esprits viennent, pressent. Et comme moi, et mon bon ami Captain America, parfois la nuit, tu te fights avec eux. Ça peut arriver que tu luttes avec eux. Et il y en a qui, dans les rêves, se sont mis à lutter avec des esprits mauvais, que j'appelle ici les brigands de nuit. Et dans les rêves, quand tu luttes avec eux, parfois tu te réveilles avec des séquelles. Ça peut être des fatigues, des marques sur le corps, des sensations, des parties de ton corps qui ont enflé, des inflammations bizarres, une partie de ton corps qui est paralysée, des maladies qui apparaissent subitement, tout un tas de choses. Des choses même que tu vas à l'hôpital, le médecin n'arrive pas à identifier. Tu as maintenant une douleur. Quand je me suis endormi, je n'avais pas cette douleur-là. Ou bien, tu te réveilles. Moi, ça m'est arrivé déjà, je dors. J'ai bien dormi. Hein. Mais c'est comme dans le rêve, tu es dans le noir. C'est-à-dire, vraiment, tu te souviens de rien du tout. Mais quand tu te réveilles, je me suis réveillé maintenant, j'avais mal à la tête et j'avais des vertiges. Je me suis mis assis sur le lit. Et puis quand je m'assois sur le lit, je vois seulement le sol qui me tombe. Mais quand le sol fait comme ça, en fait, t'as envie de tomber. Le sol fait ça et puis je me trouve. En fait, je me suis réveillé, j'avais pris un coup quelque part. Parce que tu ne peux pas dormir 6 heures et te réveiller le matin et puis tu as le vertige comme ça. Il y a un problème quelque part. Quand tu vas aller à l'hôpital, le médecin va te dire bah, peut-être qu'il y a des globules blancs qui ont éclaté et puis voilà. Non, ce n'est pas des globules blancs qui ont éclaté, tu as pris un coup. Eux, c'est des théoriciens, ils sont dans le naturel, ils ne comprennent pas le monde spirituel. Une fois, une de mes cousines, dont je tairai le nom ici, on était dans la même classe, elle et moi, au lycée Mba. Et puis un matin, comme à chaque matin, en allant à l'école, on passait toujours près de chez elle. On allait toujours dans la même direction, donc on se croisait quasiment tous les matins. Sauf que là, ce matin, elle sort de la maison, sa main était devenue grosse comme ça. La main avait enflé. Et personne ne comprenait pourquoi sa main, dans la nuit, avait brusquement enflé. J'ai dit donc, elle dit non, là je ne vais pas à l'école, je suis en train de partir à l'hôpital avec mes parents. Et quand je regarde sa main était grosse comme ça. C'était devenu, on dirait qu'on avait soufflé dedans, et puis ça avait gonflé. Elle ne sait pas. La main a juste gonflé. Parce que dans la nuit, elle avait pris un coup. Vous me suivez? Et quand tu arrives à l'hôpital, le médecin, il ne l'explique pas. Alléluia. Donc des attaques fréquentes dans les rêves la nuit doivent tout de suite nous alerter de l'influence démoniaque d'esprits impurs, des brigands de nuit. Il faut les frapper fort en les bombardant avec des prières agressives. Il faut les frapper fort. Il faut te lever dans la prière le matin et c'est pas digne tu agneau. Non. Dieu dit mais pourquoi tu viens m'adorer? On t'a bastonné là-bas. Va répondre. Pourquoi tu viens m'adorer? On est tellement spirituel, te voilà en train de venir adorer. Quand c'est le temps du combat, combattre. Pourquoi tu vas adorer? Parce qu'il y a beaucoup d'églises où les prières, jour, ils vont faire 40 jours de prière. Les 40 jours de prière là, par jour c'est toujours 3 heures de prière, parfois plus. Et chaque fois que je te retrouve, c'est toujours adoration. Car au bout d'un moment, il faut combattre. Dis comment il faut combattre. Oui. Et quand dans l'église, depuis que tu es né de nouveau dans l'église, tout ce qu'on t'a appris, c'est adorer. Tu connais pas le combat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens dans les églises. Ils ne savent pas combattre. Ils ne savent pas c'est quoi le combat spirituel. Tout ce qu'on leur enseigne, c'est ben, Jésus est beau, c'est la gloire, il faut adorer le Seigneur. Et puis, quand on adore. La gloire descend. Et quand la gloire descend, l'ennemi est terrassé. Mais gars, pourquoi Satan est encore là? Parce que vous ne combattez pas. L'ennemi est là, le diable est là. Comme il y a la gloire au temple, on s'éloigne. Parce que nous, on ne peut pas être proche de la gloire. La gloire est des hommes. Mais les gars, on les laisse sortir du temple. Hein, quand ils sortent, on va les mater. On va aller dans les rêves.
Et puis quand ils sont dans les rêves, mais Seigneur, pourquoi mon frère est ici? Je pensais que la gloire était arrivée. Non, 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 tu ne sais pas combattre. Et dès qu'ils sont, tu vois, les églises dans l'église, ils sont remplis de gloire. C'est toujours la gloire. Donc le jour où il y a une manifestation, il y a un pasteur qui est en train de prêcher, il prêche des choses comme ça, et puis quelqu'un, tout, les choses se manifestent, tout le monde fait, ouh! Mais chasser le démon, oh, c'est bizarre ça. On ne connaît pas ce monde-là. C'est les choses de l'esprit, c'est démoniaque ça. Il est peut-être possédé ou... Non, il est juste oppressé par un esprit mauvais. Il faut chasser l'esprit. Il faut chasser l'esprit. Et puis dès qu'il y a un frère, un simple frère, viens comme un frère. Un simple frère chrétien qui discerne la chose, il vient dire au nom de Jésus, pas. Dès que le frère a fait ça, il s'oublie Matthieu 20, Marc 16 qui dit au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Oh, le frère, la l'onction. Vraiment, c'est. Oh là là. Vraiment, on prend le frère maintenant, il devient un bishop, tout ça. Non, il a juste chassé un démon. C'est tout. Mais comme c'est pas coutume qu'on chasse les démons chez nous. On ne connaît pas ça. Tout ce qu'on connaît, c'est la gloire. La gloire de Dieu. La gloire. On veut la gloire. Mais tu sais, Dieu a dit, la descendance de la femme écrasera la tête. Ok, Satan. Mais je mettrai hostilité entre elle et toi. Ça veut dire qu'il y a hostilité. Le gars là, il ne nous aime pas. Il va te traquer. Donc, il faut que tu sois aussi initié au combat spirituel. Alléluia. Donc quand le combat devient rude, il y a quelque chose, quand tu vois que tu te fight la nuit, et tu vois que l'esprit là revient tout le temps, oppressé dans les rêves, tu prends l'huile d'onction. Tu prends l'huile d'onction et tu te badigeonnes. Tu prends l'huile, tu te badigeonnes. Les gars de la JR mettent la peinture noire. Toi tu mets l'huile d'onction. Tu mets l'huile d'onction. Et quand tu mets l'huile d'onction, là, tu dis Dieu. Le gars est venu l'année dernière. Ok. Là, avant de dormir. Et puis tu mets l'huile d'onction. Si tu es un peu un fou de Dieu, là, tu mets sur le corps aussi. Et puis tu t'endors. Et puis si tu veux aller même plus loin, hein, tu dis Dieu, on met la tenue de guerre. Et puis avant de dormir, tu mets juste ton short. Et puis ton conjoint dit, mais d'habitude, tu ne dors pas comme ça. Parce que je me prépare à partir. Je me prépare à partir, je suis en mode combat. Il y a un gars qui m'embête en ce moment. Donc, on va sortir les muscles. Donc, j'ai prié 2 heures là. Hein, parce qu'il m'embête tout le temps. Là. Il y en a marre. Donc, là, j'ai mis l'huile d'onction. Ta femme te regarde et dit ah. Mon mari, il est trop bizarre. Quoi. Et puis, tu vas dans le sommeil. Quand il vient dans le sommeil, maintenant, tu te vois en train de te battre. Puis, avant de dormir, tu fais Seigneur, il est charge en moi comme Matrix. Tu m'inities au Kung Fu, au Yang Kung Do, au Taekwondo. Tu m'inities à tout ça. Que je le mate là-bas. Tous les kakemono, tout ça. Là. Alléluia. Non, mais j'aime bien. Matrix, c'est un... Tu sais que Matrix a été fait par un chrétien. C'est un chrétien qui a fait Matrix. Une chrétienne, une femme chrétienne. On lui avait volé le projet, elle a porté plainte et elle a gagné des milliards de dollars parce qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent. Elle avait écrit, elle avait été inspirée de la Bible, c'est pour ça que tous les personnages du film ont des noms bibliques. Et les blancs en question avaient trouvé le film tellement génial qu'il lui avait volé le projet. Hein? Il y a une scène dans le film où il est en train de se battre, il prend un coup et puis quand il prend le coup, il ne comprend pas, il regarde le méchant et puis il dit « C'est quoi ?» Et puis on lui télécharge des armes martiaux. Et après, quand il veut fuir, il court, il arrive devant l'hélicoptère. Et puis il dit, il y a un hélicoptère devant moi. Attends, je sais piloter. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia, on avance, on a bientôt fini. Donc la victoire de l'église sur ces esprits mauvais, ces esprits impurs, elle a été effective. Regarde ce qu'il est écrit. Livre de Luc, chapitre 10, au verset 19. Connaît très bien ce passage. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, surtout de la puissance de l'ennemi. Mais c'est pas cette version-là que j'aime. Moi, c'est la version semeur que j'aime. Qui dit, écoutez bien ceci. Dis à quelqu'un, écoute bien. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et d'écraser les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Hein?
conscient de ça. Que tu as ce pouvoir-là, écrasé. Donc quand tu dors la nuit en esprit, ces esprits, quand ils voient que tu n'es pas conscient de cela, eh bien, ils vont t'oppresser. Amen. Répète cela après moi. Je déclare et je décrète,
que tout esprit
impur
et
brigand de nuit qui s'attaque à moi dans mon sommeil tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et enfin, je vais te poser cette troisième question. Il y en avait quatre, mais je ne sais pas si je vais finir vu que l'heure est avancée. Quels sont les facteurs de succès de ces esprits mauvais dans notre vie, dans notre sommeil? Regarde ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 59 au verset 1 nous dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péché qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Dis avec moi le péché. Le péché. Pourquoi Ésaïe nous dit cela? Ésaïe nous dit cela parce que le premier élément qui permet à ces esprits impurs d'agir dans la vie des gens en premier, c'est le péché. Donc en d'autres mots, je te conseille de ne pas avoir de péché dans ta vie identifié. Car le péché est une porte légale où il peut te frapper. Dieu ne peut rien faire quand tu as péché. Deux, la présence de malédiction. Car beaucoup de gens voient des esprits détruire leur vie sans même savoir qu'ils ont des malédictions sur leur vie. Les malédictions non brisées sont aussi des portes où les esprits impurs peuvent entrer. Trois, des alliances sataniques, toutes sortes de pactes sataniques qui ont été faits dans le passé ou la sorcellerie. Même si tu es venu en Christ, si dans le passé tu avais fait des pactes, il faut prendre le temps de briser ces pactes-là que tu avais fait dans le passé. Quatre, des autels maléfiques. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Les autels, ce sont des actions ou encore des incantations prononcées de manière consciente pour pouvoir se donner mal. Et quand tu viens à Christ, il faut te rappeler que tu avais construit des autels au diable. Les autels, ce sont des portes d'accès qui permettent à un esprit d'entrer dans ta vie. Si, par exemple, avant, tu étais dans la sorcellerie, tu faisais beaucoup de choses, etc., tu as reconnu la seigneurie de Jésus-Christ aujourd'hui, prends le temps de te faire délivrer et de renverser tous ces autels-là. Sinon, ce sont des portes ouvertes dans ta vie. L'absence de délivrance est aussi une très bonne raison. Des gens viennent dans le Seigneur, dans les églises, et beaucoup doivent passer par la délivrance. Parce que tout simplement, ils ne peuvent pas se faire une délivrance personnelle. Parce qu'ils n'ont pas été initiés au combat spirituel. Donc beaucoup doivent passer par la délivrance pour être libérés de ces esprits-là. Quoi d'autre encore? Les objets volés et envoûtés. Des objets qu'on a pu t'offrir ou que toi-même tu as pris. Des objets initiés. Toutes sortes d'objets qui sont dans nos maisons. Des totems. Des totems qui peuvent aussi ouvrir la porte à des esprits mauvais dans nos maisons. Je n'ai pas besoin de nous faire un dessin, on comprend très bien. Alléluia. Un environnement spirituel impur, c'est-à-dire là où le péché abonde, l'oppression des esprits impurs et la malédiction surabondent. Donc si on est dans un environnement qui est malsain, ça favorise les oppressions démoniaques. La rétrogradation dans sa marche avec Christ, s'éloigner du Seigneur, désobéir à la parole de Dieu, pécher ou permettre que le péché domine dans notre vie, ne pas aller à l'église alors qu'on est en Christ et préférer rester à la maison, s'abandonner, abandonner son premier amour ou bien être spirituellement tiède sont aussi d'excellents moyens que les esprits impurs utilisent pour nous oppresser. Alléluia. Dis avec moi, il ne faut pas être tiède. Et enfin, les certificats et les contrats de mariage non révoqués. Tout contrat de mariage fait dans le passé doit être révoqué et annulé dans la prière au nom de Jésus-Christ. Contrat de mariage, plutôt mariage qui a été fait par toi-même, si tu t'es marié à quelqu'un, ou bien mariage qui a été fait par un parent quand tu étais jeune et qui t'a marié à quelqu'un. Ça aussi, ce sont des raisons, d'excellentes raisons, permettre aux esprits impurs de nous oppresser. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi gloire à Dieu? Je vais terminer avec ça. Comment chasser un esprit impur, brigand de nuit? Pasteur, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je le chasse au nom de Jésus. Je sais qu'il faut prier et tout ça. Mais je vais juste te donner deux, trois petits conseils. Le premier, c'est sois conscient du pouvoir qui est en toi. Sois conscient du pouvoir et de la puissance que tu as entre tes mains. Il faut grandir et être conscient de notre identité en Jésus-Christ. Luc 9, chapitre 1 dit « Jésus réunit les douze et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. » J'ai ce pouvoir-là. J'ai ce pouvoir-là. Amen. Hier, avec quelques personnes, on est parti dans un hôpital pour rendre visite à une sœur bien-aimée dans le Seigneur et pour prier pour son enfant. Et en sortant de la chambre de l'hôpital, on repartait vers la sortie. Tout d'abord, déjà dans la chambre, il y avait deux autres enfants qui étaient malades. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas sortir de cette chambre sans prier pour les autres enfants. Donc j'ai aussi prié pour les autres enfants qui étaient dans la chambre. Et quand je suis sorti de la chambre, naturellement, en face de moi, il y avait une chambre ouverte avec un autre enfant malade. Je me suis rentré, j'ai dit bonjour aux gens, bonjour, vous allez bien, ça va, c'est plus la maman, tout ça, ok. Il a quoi l'enfant? Ils ont commencé à me dire, il a ça, ok, je prie pour lui. J'ai prié pour lui. Alors l'autre enfant, lui, il a quoi? Je prie pour les enfants. J'arrive au hall et je vois quelqu'un qui est assis avec sa femme. Je me dis, il a quoi votre enfant? Ça fait 2 semaines qu'il ne mange plus. Mais pourquoi? On ne sait pas. Il mange et il vomit automatiquement. Je dis, ça c'est un démon ça. Et j'ai prié pour lui. J'ai commencé à déclarer les paroles, etc. J'ai prié. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et beaucoup d'enfants de Dieu, on ne se comporte pas suffisamment comme ça. Même moi, personnellement, je pense que je ne me comporte même pas suffisamment comme ça. On devrait le faire plus souvent, ces choses-là. Amen. La deuxième chose, le deuxième conseil que je te donne, c'est hausse le ton et montre ton autorité. Dis avec moi, hausse le ton. Parce que les prières liturgiques, là, et polies, il faut arrêter ça. Il faut prier et le foutre dehors. Il est écrit dans Marc, chapitre 9 au verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » C'est comme ça qu'on prie. Parole vivante dit, « Jésus parla à l'esprit impur d'un ton impératif. Tu sors tout de suite. » Et le menaçant, esprit impur, qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Parce que toi, quand tu lis ta Bible, c'est Jésus parla à l'esprit impur d'un ton impératif et menaçant. Esprit rend et sourd, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet. Toi, tu lis comme un bon français. Non, c'est pas ce que Jésus-Christ a dit là. C'est pas comme ça. Quand tu vois, je te l'ordonne, c'est on parle, je te l'ordonne. On sait le faire quand il s'agit de gronder les enfants. Mais quand il faut prier, là, on ne connaît plus gronder. Allez, sors! Tu vas voir ça si tu touches encore à ça. Mais quand on prie à l'église, pourquoi quand le pasteur dit, prions, vous brisez les esprits un peu, blablabla, bla, 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 et te voilà. Oh, Seigneur, vraiment. Non, prie! Qui est avec moi, prie! Oh! C'est pour ça que moi, j'aime voir Mme Guéma prier. Parce que Mme Guéma, elle est les secours. Ah, oh, je taquine un peu. Alléluia. Hein? Il faut prier. Hein? Alléluia. Et enfin, le troisième conseil que je te donne, c'est sois agressif dans la prière et frappe fort les récidivistes spirituels. Ça, c'est une bonne raison qu'il y en a, ils ne lâcheront rien. Psaume 68, verset 28 dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Amen. On va se mettre à prier. J'ai dépassé le temps qui nous était imparti un peu, mais je pense que la parole nous a fait du bien. Alléluia. L'ennemi est vaincu dans ta vie au nom de Jésus. Il n'a aucun pouvoir sur toi, sauf celui que tu lui donnes. Ce n'est pas parce qu'on est en Christ que l'ennemi ne t'attaquera pas. Au contraire, c'est parce que tu as une très grande destinée qu'il t'attaquera. Parce que s'il y a bien une chose qu'il ne veut pas, c'est que tu accomplisses ta destinée. Et il viendra t'oppresser. Le Seigneur nous a conduits à faire un arrêt sur le mystère des rêves. Parce que le Seigneur voulait nous montrer, nous expliquer que beaucoup de choses que nous vivons la nuit dans nos rêves sont le fruit des œuvres infructueuses des ténèbres, des esprits mauvais qui oppressent nos vies. Ces esprits oppressent, ces esprits bloquent, ferment des portes, détruisent des destinées, agissent dans le mensonge et la tromperie pour empêcher les enfants de Dieu de prospérer. Mais Dieu aujourd'hui, au travers de cet enseignement, voulait simplement nous éclairer pour nous rassurer que vous n'avez rien à craindre de ces descendants de Néphilim, ces esprits humains qu'on appelle esprits impurs qui hantent les vies des gens. Chaque fois qu'on identifiera ces esprits impurs, il faut les chasser. Jésus-Christ est le meilleur exemple. Il ne passait son temps qu'à chasser les esprits impurs. De même, si tu as identifié un esprit impur dans ta vie, rentre à la maison, chasse-le. Prends un temps de jeûne s'il le faut, mais chasse cet esprit. S'il y a un esprit qui trouble ton foyer, trouble ton mariage, trouble, ne regarde jamais à la chair. Ne regarde jamais ton conjoint comme un ennemi. Ce n'est pas ton conjoint qui trouble ton foyer chaque fois que vous vous disputez. C'est un esprit impur qui est derrière. N'en veux pas à ton conjoint. Ne regarde pas à ton conjoint. Ne lui réponds même pas quand il t'agresse ou quand il t'insulte ou quand vous vous disputez. Ne lui réponds pas parce que c'est un esprit impur qui est derrière, qui entre pour pouvoir perturber la paix de votre maison. Chasse cet esprit simplement. Si c'est une maladie, une oppression, mets-la dehors. Parce que la maladie ne fait pas partie de ton héritage en Christ. Dieu ne nous a pas créés et ne nous a pas destinés à la maladie. Dieu nous a créés et destinés à la gloire. Si la maladie se présente dans ta vie, prends autorité et chasse cela. Brise le pouvoir du diable. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix simplement et commencer à prier sur cette base-là et dire: Père de grâce, je te rends grâce, je te bénis Seigneur pour la révélation de ta parole. Les descendants du serpent n'ont aucun pouvoir sur la descendance de Christ. Voilà pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant, certes, tu as permis que l'ivraie et le blé croissent ensemble, mais ce n'est pas parce que l'ivraie et le blé grandissent, croissent ensemble, que ça veut dire que le blé est soumis à l'ivraie. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors ton Dieu déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant et que tu domines. Seigneur, je règne dans ce monde ici-bas. Je domine au nom puissant de Jésus-Christ. Brise le pouvoir de l'ennemi. Chasse les démons, car c'est à cela que je t'ai appelé. Car les fils de Dieu sont venus pour détruire les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et toi, avec gratitude, temps est avancé, je voudrais donner l'opportunité, s'il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, si tu n'as jamais confessé le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais te donner l'opportunité de venir devant pour reconnaître le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu es ici et que tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais fait la prière du salut, alors viens devant pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Car je t'assure, quand nous entendons ces choses-là, des personnes qui ne sont pas en Christ ignorent, elles ne mesurent pas en fait la portée de telle vérité. Alléluia. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus? Si c'est le cas, n'aie pas honte et viens devant simplement pour qu'on prie avec toi. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, si tu n'as jamais fait la prière du salut, alors viens devant. Alléluia. Amen. Je voudrais que vous fassiez cette prière avec moi, que vous répétiez cette prière. Je demande à l'assemblée d'élever leur voix et de répéter également avec moi pour couvrir leur voix. Père céleste, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes péchés et pour toutes mes fautes. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je nais de nouveau dans le royaume de Dieu, en Christ. Aide-moi tous les jours à marcher selon ta parole, à être obéissant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui est mort pour moi et qui est ressuscité pour moi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes? Voilà. Amen.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.